André Cognard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes 8e dame d'aïkido, ce qui est un titre assez rare, je pense, dans le monde. On vous a délivré un titre, Cognard André Anshi So Sihan, j'espère que je prononce bien. Alors vous nous direz peut-être ce que ça signifie. Et surtout, vous êtes le fondateur de l'Académie Autonome d'Aïkido, dans la lignée donc de votre maître Kobayashi, qui, je pense, prône une certaine touche spirituelle.
Oui. Tout d'abord, 8e dan, vous savez, les titres, les grades, ça sanctionne une vie consacrée aux arts martiaux, ça veut pas dire forcément une compétence extraordinaire. Voilà, faut remettre les choses à leur place. Anshi, c'est un titre Budo, ça veut dire que normalement il n'y a que la famille impériale japonaise qui peut le délivrer, puisque c'est un titre dans la hiérarchie des samouraïs, donc c'est un titre nobiliaire. C'est le plus haut grade dans la hiérarchie des samouraïs. Voilà, pourquoi je suis représentant de la Dai Nippon Butokukai, qui est une organisation gouvernementale japonaise liée à la famille impériale. Et donc, j'ai fait un parcours dans cette organisation des arts martiaux japonais. Voilà. Soke, ça veut dire que on est la personne référente dans un lieu, c'est-à-dire dans une école traditionnelle japonaise. Et Sojiran, c'est un titre dojo. Ça veut dire que dans son organisation, on est le maître des maîtres de l'organisation. Voilà. Bon, tout ceci, c'est du baratin. Enfin, pour moi, ça n'a aucune importance. Est-ce que nous, l'Académie Autonome d'Aïkido, sommes orientés vers la spiritualité? Je serais tenté de dire oui, un peu, à condition qu'on entende spiritualité dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire certainement pas une forme de mysticisme, mais une spiritualité ouverte sur la vie quotidienne, une spiritualité organisée autour d'une pratique sérieuse. La dimension la plus importante, c'est l'éthique, dont le fondement, c'est la liberté individuelle et le respect de tous.
Alors, vous n'avez pas de site Facebook, à ma connaissance, mais il y a un site Facebook où vous apparaissez avec une petite photo. C'est un site avec le nom de votre maître Kobayashi. Donc, on peut dire que vous êtes un peu caché comme ça sur la nébuleuse Internet, en tout cas dans l'ombre de ce maître. Et dans votre dernier livre, d'ailleurs, c'est un livre qui lui est dédié. Donc, j'imagine que c'est pour exprimer la lignée de laquelle vous êtes issu, en fait.
Alors, bon, j'ai eu un compte Facebook, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc je l'ai clos parce que il était jamais dans l'actualité. Mon quotidien, c'est tous les jours dans un endroit différent pour enseigner, et c'est au minimum un changement de continent tous les mois, voire deux. Donc franchement, j'ai pas le temps. Il existe un compte Facebook lié à notre organisation Kobayashi Ryu. Je sais pas qui s'en occupe, à vrai dire. C'est sûrement un de mes élèves et j'ai entièrement confiance en lui, même si je sais pas qui c'est. Et je laisse faire parce que bon, c'est pas mon domaine, cette communication. D'accord. Je préfère la discrétion de toute manière. Et vous savez, quand on est le disciple de quelqu'un, on apprend de lui à peu près tout. En tout cas, là, mon maître me disait toujours, en tant que maître d'arts martiaux, je dois vous apprendre à survivre. Après, apprendre à vivre, vous le ferez par vous-même. C'était sa façon à lui de dire qu'il ne fallait pas être dépendant, il ne fallait pas attendre de lui, pas plus que d'un autre, des solutions pour sa propre vie. Et j'ai bien entendu la leçon. En même temps, voilà, je vis des arts martiaux depuis 1977. Je lui dois à peu près tout ce que j'ai. Et le bonheur quotidien qui est le mien, je lui dois en grande, grande partie. Donc, je vois pas trop comment je pourrais enseigner sans d'abord témoigner absolument de cette relation maître-disciple, et c'est même ça qui constitue le fondement de l'enseignement.
Et alors oui, justement, dans le livre, vous dites qu'il a mis dans votre corps et dans votre esprit assez d'informations pour la survie. Donc vous venez de nous en parler, mais qu'est-ce qu'il entendait peut-être par là, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Nous sommes tous sous l'emprise de forces qui nous dépassent, tous. Et le passé est présent dans notre quotidien. Le passé est là, les mémoires des uns et des autres habitent notre corps, le corps entièrement est mémoire. Et sans le savoir, nous sommes souvent obéissant à des obligations de loyauté que nous ne connaissons pas. Donc, dire j'ai mis dans votre corps les moyens de survivre, ça veut dire j'ai mis la force nécessaire, j'ai mis les références nécessaires pour que vous découvriez par vous-même qu'est-ce qui vous contraint, à quelle chose êtes-vous inféodé et comment vous pouvez vous en libérer.
C'est une sorte de voie traditionnelle, mais qui passe plus par le corps, hein, l'aïkido.
Quand nous parlons, c'est le corps qui parle. Quand nous pensons, c'est le corps qui pense. Quand nous dormons, c'est le corps qui dort. Enfin, sans le corps, on fait absolument rien. Alors que le corps soit investi dans la pratique, ça paraît l'évidence. Je crois qu'il est question de proportion, c'est-à-dire que quelle est l'activité gestuelle, parce que la gestuelle, c'est quelque chose qui traduit d'une manière extraordinaire quel rapport il existe entre l'individu, le sujet, et puis ses contraintes auxquelles il est soumis inconsciemment. Et je crois que le geste nous montre quel est le degré de liberté par rapport à ça. Donc effectivement, la technique est là, la technique est très exigeante, elle nous impose de gestualiser d'une manière complexe, et plus on en est capable et plus on perçoit sa liberté.
On revient peut-être sur Maître Kobayashi Hirokazu, c'était son prénom. Vous dites dans le livre, enfin, vous racontez un peu quelques éléments de sa biographie, qu'il était comme perdu pour le monde, puisque en fait il voulait s'engager comme kamikaze pendant la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il. Mais il a choisi au dernier moment d'offrir sa vie finalement à quelqu'un, qui était donc le fondateur de l'aïkido, Maître Ushiba. On peut dire que sa vie est presque christique en somme.
Ça n'est pas tout à fait ça. Il a été kamikaze et il s'est engagé comme kamikaze et avait été véritablement sur les terrains d'opération. Simplement, il était parmi les plus jeunes et comme on les envoyait par ordre d'âge, au moment où il aurait pu partir, il n'y avait plus d'avion. Donc il a été rapatrié et il a été débarqué à Hiroshima juste après le bombardement que l'on connaît. Et donc il a été avec beaucoup d'autres chargé de dégager les cadavres qui traînaient partout dans les rues, de les charger sur des camions, de les emmener sur les plages pour finir de les brûler. Et donc, il a été profondément marqué par ça. Il avait 15 ans, hein. Et quand il est rentré au Japon, quand il est rentré à Tokyo après cela, il a cherché une voie. Je crois que quand on est aussi profondément marqué, on cherche des solutions qui permettent de comprendre ce qu'on a vécu, de faire face à ces atrocités. Et donc, il était déjà kendoka et karatéka depuis très longtemps. Et donc, il est allé voir un maître de karaté qui était une célébrité à l'époque. Et ce maître l'a reçu, l'a enseigné un peu, mais lui a dit non, ta voix n'est pas là, ta voix c'est là-bas. Et il lui a fait une lettre d'introduction pour le fondateur de l'aïkido. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé devant Maître Ushiba. Et à partir de ce moment-là, sa vie a été tracée.
Mais il s'est quand même engagé auprès de ce maître, enfin, ça, il lui a dédié sa vie en quelque sorte.
Je crois que c'est le sens de la voix. Enfin, on croit qu'on dédie sa vie au maître et finalement on se rend compte après coup qu'on se les dédie à soi-même. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelque chose de fort dans la relation maître-disciple, c'est ça. C'est, on vient, on remet le pouvoir sur soi à quelqu'un. En gros, c'est l'idée. Et puis finalement, il le prend jamais. Et on se rend compte au bout du compte que l'on a suivi sa propre voie et que la rencontre a été absolument décisive, mais qu'à aucun moment il y a eu d'emprise de l'un sur l'autre.
Alors, peut-on dire que le maître, au sens absolu, est imprévisible car il vit dans l'éternel présent ou parce qu'il vit selon l'esprit, ce qui revient peut-être à la même chose, finalement, puisque l'esprit, nul ne peut le saisir.
Dans l'imprévisibilité dont Maître Kobayashi se prévalait, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que ça réunit la dimension spirituelle avec la dimension martiale. C'est-à-dire que personne n'est plus efficace sur un champ de bataille ou dans un combat que celui qui est imprévisible. Et en même temps, l'imprévisibilité, comme vous le dites, c'est vraiment la qualité fondamentale de l'esprit. Qui sait ce que nous serons dans une seconde, dans un mois, dans un an? Personne n'en a aucune idée. On pourrait imaginer que parce que l'on est encore relativement jeune, on a une espérance de vie, de temps. Mais bon, tout ça n'est que présomption. Et je crois qu'il y a quelque chose de phénoménal dans cette dimension de l'esprit qui est la liberté absolue, c'est-à-dire que il est impossible de cantonner l'esprit à aucune idée et en particulier à aucune prévision.
Alors le corps, vous le disiez et tout, plutôt que de le nier, voilà, je reprends des termes que vous avez cités dans votre dernier livre, il convient d'accueillir ou de voir en soi des mémoires qui viennent parfois de très loin. Et est-ce ce que vous appelez le corps qui fait bouger l'esprit, donc ces mémoires, je cite, transgénérationnelles, voire transincarnationnelles?
Le corps entier est mémoire. Nous sommes habités en permanence par au moins trois mémoires, une mémoire génétique. Ça tombe bien parce que si on accouple des chiens, ça fait pas des chats. Et quand on accouple des humains, ça fait des humains en principe. Ça, c'est plutôt bien. En même temps, avec cette mémoire génétique, il y a un ensemble d'éléments qui passent depuis la préhistoire, la violence paye. Donc, cette mémoire agit en nous et dans certains cas où nous sommes en difficulté, elle nous pousse à agir de manière violente. Ensuite, il existe une mémoire somatique, une mémoire de tout ce que nous avons vécu individuellement depuis la conception jusqu'au jour où nous sommes. Et cette mémoire-là aussi pose des interdits, crée des préférences, etc. et agit en nous souvent à notre insu. Et puis, il existe la grande mémoire ancestrale, la mémoire épiphylogénétique, qui, elle, et la mémoire de tout ce qui a été vécu par tout humain, puisque nous sommes en permanence reliés entre nous, qu'aucun d'entre nous ne vit indépendamment, et que nous sommes habités à travers la langue, à travers un certain nombre de, un patrimoine d'images communes, un patrimoine d'idées communes. Nous sommes reliés constamment, et ce qui vit dans l'un vit dans l'autre. Et ça, ça aussi agit beaucoup, agit en nous très fortement. Donc l'ensemble de notre être a une conscience, parce que précisément cette conscience est soutenue par ces différentes mémoires. Et là je parle pas de la mémoire psychique qui bien entendu s'ajoute et amène des critères, discrimine, analyse, etc. Donc nous sommes sous l'emprise de ces forces-là et en être conscient, c'est s'en libérer. Nous avons été issus de deux parents et nous avons par rapport à eux des obligations de loyauté, y compris quand les parents sont défaillants, y compris quand nous avons eu à lutter contre eux, enfin peu importe. Il n'y a pas de jugement sur quelle est l'histoire. Il y a une chose, il y a une histoire qui est une histoire universelle, qui est l'engendrement des uns par les autres. Et de ce fait, nous avons obtenu un corps et nous avons une obligation de loyauté. Et même si nous ne souhaitions pas y répondre, nous y sommes contraints. Donc, il y a des forces qui sont là, qui sont très puissantes, qui nous imposent des choses. Et nous devons être loyaux pour pouvoir nous libérer. Il y a une différence essentielle entre remplir des obligations parce que nous y sommes contraints et remplir des obligations parce que nous choisissons de le faire. Et c'est dans ce choix de le faire que se trouve une véritable liberté.
D'accord, mais alors en aïkido, puisque tout passe par le corps, en fait ça se traduit concrètement par quoi? Des tensions, ce genre de choses des...
Tout d'abord, la gestuelle de l'aïkido, enfin de l'aïkido Kobayashi en tout cas, est très complexe et nécessite une grande capacité psychomotrice. Et donc quand les contraintes exercées sur un sujet sont importantes, la psychomotricité est... handicapée, limitée, restreinte. En tout cas, on voit une chaîne psychomotrice qui agit par saccade, par secousse, etc. et qui est incapable d'exécuter un geste complexe d'un bout à l'autre. Le geste complexe, c'est quelque chose qui échappe au psychique. C'est-à-dire qu'il est impossible, quand on observe un geste d'aïkido tel que Kobayashi-sensei l'enseignait, il est impossible de le représenter. Bah, si je fais une technique, il peut y avoir 10 mouvements différents, dans des directions différentes en un quart de seconde. Donc le psychisme est complètement incompétent. Et donc il faut que le corps le fasse. Et un corps qui est trop contraint, qui est sous une emprise trop forte, ou c'est des emprises trop fortes, n'est pas capable de le faire. Néanmoins, à partir du moment où il y a un maître ou quelqu'un qui vous transmet le geste et qui essaie de le faire vivre dans votre corps en vous le faisant subir, peu à peu, le corps commence à l'intégrer et commence à passer ses barrières, à passer ses limites. Voilà, il faut du temps, il faut des répétitions, mais en tout cas, nous voyons des gens qui passent d'une psychomotricité relativement mauvaise à une très bonne, voire même à un moment excellente, au-delà de ce que tout un chacun peut voir.
Il y a, vous dites, un combat pour retrouver son intégrité, donc dans le cadre de la pratique de l'aïkido, face aux projections d'autrui, sur l'image qu'ils ont de nous et inversement. Est-ce à dire que là où il y a un centre, l'image disparaît ?
Non. Très souvent, quand j'ai des gens en formation, puis je fais des formations dans différents domaines, je leur dis, voilà, nous sommes 15 autour de cette table, mais en réalité, combien sommes-nous vraiment ? Parce que chacun des 14 autres interagit avec l'image qu'il a de vous. Ça veut dire que chacun des 14 autres a une image de vous qui est différente. Forcément, puisque chacun vous apprécie de différentes manières, et en particulier vous apprécie à partir de sa propre expérience. Quand je dis apprécie, vous évalue, vous analyse, vous comprend. Donc, si nous sommes ici 15 et que 14 vous regardent, il y a 14 vous présents, en plus du vous que vous connaissez vous, et qui n'est en plus pas forcément plus objectif que les autres. Néanmoins, chacun interagit avec la représentation qu'il a de vous. Donc c'est l'interaction qu'il a avec la représentation de vous et la façon dont vous y répondez qui fait votre vie. Donc leur représentation, les 14 autres représentations, sont aussi vraies et aussi importantes que celles que vous en avez de vous-même. D'accord ? Donc comment pourrions-nous arriver à rester libres devant ça ? C'est ça la vraie question. Et donc, comment pouvons-nous être libres ? Eh bien, en acceptant toutes les projections, en ne se défendant contre aucune. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a le droit d'apprécier chacun des autres à sa manière, et en fonction de l'expérience qu'il en a, parce que c'est complètement vrai. C'est faire exister un entre-nous qui est plus vrai que ce que chacun peut définir par soi-même, isolément. Aucun d'entre nous ne vit isolément. Aucun. Donc, il y a une vérité dans cette projection, et on ne peut en être libre qu'en l'acceptant.
peut-être évoquer justement à ce moment précis de l'entretien, le Jisekai, donc ce monde de l'esprit, de le réel tel que l'enseignait Maître Kobayashi.
Jisekai, ça veut dire monde vrai. Mais le monde vrai, c'est pas forcément un monde qu'on observerait de l'extérieur avec une forme de rationalité scientifique. Quel que soit l'objet qu'on observe, il y a un sujet qui l'observe. S'il n'y a pas de sujet qui l'observe, il n'y a pas d'observation et il n'y a pas d'objet observé. Donc le sujet, l'observant, évidemment, interagit avec l'objet. Et la vérité, elle n'est pas dans l'objet, mais elle est dans la façon dont le sujet l'observe et dans l'interaction. D'accord? Donc vous comprenez même que n'importe quel scientifique hyper rationnel prétendant à une exhaustivité, etc., est dans la subjectivité. S'il n'existe absolument rien d'autre que des sujets. D'accord? L'objet, c'est une projection du sujet. Et rien d'autre. Le temps, nous le fabriquons nous avec notre conscience. L'espace, nous le fabriquons avec notre conscience. Si vous n'étiez pas ici aujourd'hui, cet espace-temps-là n'existerait pas pour vous. Et il n'existerait pas tout court.